we need it. Tu as des questions? Non. Alors moi j'en ai. C'est pas moi qui les pose. On me les a posées. Durant la semaine, j'ai reçu un certain nombre de questions et aussi un texte pour lequel on m'a demandé des commentaires. Je vais d'abord prendre une question qui est d'un ordre très précis et pour laquelle la réponse sera très courte. La semaine dernière, je vous ai parlé de la naissance, de comment les âmes entrent dans le corps. Et je vous ai dit que ce corps est formé d'une façon très peu satisfaisante, d'une presque pour tout le monde. Les exceptions sont si rares qu'on peut à peine en parler. Je vous ai dit qu'on arrivait par cette naissance obscure avec tout un bagage physique de choses dont il faut généralement se débarrasser si on veut progresser vraiment. Et on m'a cité ma propre phrase qui est comme ceci. On vous fait venir par force. On vous impose le milieu par force, les lois de l'atavisme par force. Et alors la personne qui m'a écrit m'a demandé qui est ce « on ». Évidemment, j'aurais pu être plus explicite, mais je pensais que j'étais suffisamment claire. Le corps est formé par un homme et une femme qui deviennent père et mère, et c'est eux qui n'ont pas même les moyens de demander à l'être qu'ils vont faire venir sur terre si ça lui est agréable de venir, ou si c'est conforme à sa destinée. Et le corps qu'ils forment, c'est à ce corps qu'ils imposent par force, par la force de la nécessité, qu'ils imposent un atavisme, un milieu, une éducation plus tard, qui feront presque toujours des obstacles pour la croissance future. Par conséquent, je dis ici et je redis, je croyais que j'avais été clair, je dis qu'il s'agit des parents physiques et du corps physique, rien d'autre. Et que l'âme qui s'incarne, ou en cours de développement, ou pleinement développé, a lutté avec ces circonstances qui lui ont été imposées par la naissance animale, a lutté avec ça pour trouver son vrai chemin et se retrouver soi-même pleinement. Voilà. Maintenant, si quelqu'un a quelque chose de plus à demander sur le sujet, on peut me poser une question. Personne n'a rien à dire. Vous aviez compris ce que je vous l'ai dit la dernière fois? Oui?
Mais est-ce que c'est possible pour la mère et le père de faire naître, de demander le corps qui...
Demander, il faut pour ça qu'ils aient une connaissance occulte que généralement ils n'ont pas. Mais en tout cas, il y a une chose qui est possible, c'est qu'au lieu de faire la chose comme un animal, poussé par un instinct ou un désir, et sans même le vouloir la plupart du temps, qu'il le fasse volontairement, avec une aspiration, qu'ils se mettent eux-mêmes dans un état d'aspiration et de presque de prière, n'est-ce pas, pour que l'être qu'ils vont former soit une forme convenable pour revêtir une âme qu'ils peuvent appeler pour s'incarner en elle. J'ai connu des gens qui, il n'y en avait pas beaucoup, ça n'arrive pas souvent, mais enfin j'en ai connu, qui choisissaient des circonstances spéciales, se préparaient par des conditions de concentration et de méditation et d'aspiration spéciale, et chercher à faire venir dans le corps qu'ils allaient former un être exceptionnel. Il y a eu aussi, et ça s'est passé dans des pays dans l'ancien temps, et ça se passe encore dans certains pays maintenant, où la femme qui va avoir un enfant est mise dans des conditions spéciales de beauté, d'harmonie, de paix, de bien-être logique, de conditions physiques tout à fait normales, afin que l'enfant qui soit formé le soit dans les meilleures conditions possibles. Ça, c'est évidemment ce qui devrait être, parce que c'est conforme à la possibilité humaine. Les êtres humains sont assez développés pour que ça ne soit pas une chose tout à fait exceptionnelle. C'est pourtant une chose tout à fait exceptionnelle parce qu'il y a très peu de personnes qui y pensent, et qu'il y a une innombrable quantité de gens qui font des enfants sans même le vouloir. C'était ça que je voulais dire. C'est possible, mais il faut avoir au moins un peu de conscience soi-même, et puis vouloir faire ce que l'on fait dans les meilleures conditions. C'est très rare, mais c'est possible.
Mais lorsqu'un corps est formé, l'âme qui s'y incarne, est-ce qu'il est obligé de s'incarner dans ce corps?
Hein?
Lorsqu'un corps est formé, l'âme qui s'y incarne, est-ce qu'il est obligé de s'incarner dans ce corps?
Je ne comprends pas très bien sa question.
La formation du corps, ça dépend toujours sur un homme et sur une femme, n'est-ce pas? Mais l'âme qui se manifeste dans l'enfant, dans le corps qui se forme,
oui.
Il est obligé de se manifester dans ce corps.
Tu veux dire qu'il peut choisir entre des corps différents?
Oui.
N'est-ce pas? Il est très exceptionnel, malgré tout, dans la masse humaine formidable. Il est très exceptionnel que ce soit une âme consciente qui s'incarne volontairement. C'est un fait très rare. Et je vous ai dit déjà que quand une âme est consciente, pleinement formée, et qu'elle veut s'incarner, généralement, de son domaine psychique, elle cherche à voir une lumière psychique correspondante sur une certaine localité de la Terre. Aussi, avant, à sa précédente incarnation, Je vous ai expliqué aussi qu'avant de s'en aller, avant de quitter l'atmosphère terrestre, généralement, elle a comme résultat à l'expérience qu'elle a eue dans la vie qui se termine, elle choisit plus ou moins, pas dans tous les détails, mais d'une façon générale, les conditions de sa vie future. Mais ça, ce sont des cas exceptionnels, n'est-ce pas? Il se peut que pour nous, nous puissions en parler, mais pour la majorité, l'immense majorité humaine, même parmi ceux qui sont éduqués, ça n'entre pas en question. Ce qui viendra là, c'est un être psychique en formation, plus ou moins en formation, et il y a toutes les étapes de formation, comme ce qu'il a écrit là-dedans, n'est-ce pas? Je viens de vous le lire, depuis l'étincelle qui devient une petite lumière, et je viens de vous le lire à la minute, c'est comme ça, et ça se répand sur des milliers d'années, n'est-ce pas? Cette ascension de l'âme pour devenir un être conscient et qui a sa volonté propre et qui peut décider du choix de sa vie, ça prend des milliers d'années. Alors, tu parles d'une âme qui dirait « Non, je refuse ce corps, je vais en chercher une autre. » Mais je ne dis pas que ce soit impossible, tout est possible. Il se trouve en effet qu'il y a des enfants qui sont venus morts-nés. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu d'âme qui s'est incarnée en eux. Mais ça peut être pour d'autres raisons aussi, ça peut être par raison de malformation, seulement on ne peut pas dire. Je ne dis pas que c'est impossible. Mais généralement, quand une âme consciente et libre choisit de reprendre un corps sur Terre, avant même la naissance, elle travaille sur ce corps. Alors elle n'a aucune raison pour ne pas accepter même les inconvénients qui peuvent résulter de l'ignorance des parents. Parce qu'elle a choisi l'endroit pour une raison qui n'était pas une raison d'ignorance. Elle a vu une lumière là, ça pouvait être simplement la lumière d'une possibilité, mais il y avait une lumière et c'est pour ça qu'elle est venue là. Et alors à côté, c'est très bon de dire « Ah non, ça ne me plaît pas, ben où est-ce qu'elle irait pour en choisir une qui lui plaît ?» Ça peut se faire, je ne dis pas que c'est pas possible, mais ça ne doit pas se produire très souvent. Parce que quand du domaine psychique l'âme regarde sur la terre et choisit le lieu de sa prochaine naissance, elle le choisit avec suffisamment de discernement pour ne pas se tromper tout à fait grossièrement. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, mais ça paraît improbable. C'est arrivé aussi qu'il y a des âmes qui sont incarnées puis qui sont parties. Il y a beaucoup de raisons pour qu'elles s'en aillent. N'est-ce pas, les enfants qui meurent très jeunes après quelques jours ou après quelques semaines. Ça peut être une raison comme ça. La plupart du temps, on dit que c'est parce que l'âme avait besoin juste d'une petite expérience pour terminer sa formation qu'elle a eue dans ces quelques semaines et qu'elle est partie. Tout est possible. Et il faudrait raconter autant d'histoires pour raconter l'histoire des âmes qu'il faut en raconter pour raconter l'histoire des hommes. C'est-à-dire que c'est innombrable. Et que les cas sont aussi différents que possible les uns des autres. Alors, n'est-ce pas, décider arbitrairement c'est comme ça et ce n'est pas comme ceci, ça arrive et ça n'arrive pas, c'est un enfantillage. Tout peut arriver. Il y a des cas qui sont plus fréquents que les uns que les autres. On peut généraliser, mais on ne peut jamais dire ça, ce n'est pas possible, et c'est toujours comme ceci ou toujours comme ça. Ce n'est pas comme ça. Mais en tout cas, même dans les cas les meilleurs, même quand l'âme est venue consciemment, même quand elle a participé consciemment à la formation du corps physique, n'empêche que tant que le corps sera formé de la façon animale habituelle, elle aura à lutter et à corriger toutes les choses qui viennent de cette animalité humaine. Nécessairement, les parents ont une formation spéciale, ils ont une bonne ou mauvaise santé spéciale, même en mettant les choses au mieux, ils ont un tas d'atavismes, d'habitudes, de formations dans le subconscient et même dans la conscience qui proviennent de leur propre naissance, du milieu dans lequel ils ont vécu, de la vie. Et même si ce sont des gens remarquables, ils ont des quantités de choses qui sont tout à fait contraires à la vie psychique vraie. Même les meilleurs, même les plus conscients. Et en plus, il y a tout ce qui va arriver, même ceux qui se donneront beaucoup de mal pour l'éducation de leur enfant, ces enfants seront en contact avec toutes sortes de gens qui auront une influence sur eux, surtout quand ils seront tout petits. Et ces influences entrent dans le subconscient, il faut lutter contre ça plus tard. Je dis, même dans les cas les meilleurs, à cause de la manière dont le corps est formé maintenant, vous avez à faire face à d'innombrables difficultés qui proviennent plus ou moins du subconscient, mais qui montent à la surface et avec laquelle il faut se lutter pour pouvoir devenir tout à fait libre et se développer normalement. C'est tout? Oui? C'est tout sur le sujet? Quelqu'un a quelque chose à demander? Personne? Classé. Maintenant, depuis la fin de février, j'ai reçu une quantité considérable de questions sur comment le supramental va-t-il agir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour le recevoir? Etc., etc. Sous quelle forme il se manifestera? Et alors, j'ai répondu comme j'ai pu. Mais il se trouve que dans le livre On the Veda de Sri Aurobindo, il y a une note à une certaine page, et que dans cette note, il répond aux questions. Ça, je dis toujours aux gens, si vous vous donniez un petit peu la peine de lire ce que Sri Aurobindo a écrit, il y aurait beaucoup de vos questions qui deviendraient inutiles parce qu'il y a déjà répondu. Mais enfin, il est probable qu'on n'a ni le temps, ni la patience, ni la volonté, ni tout ce qu'il faut, mais on ne lit pas. les livres paraissent, qui sont même, je crois, généreusement distribués, mais il y a peu de gens qui les lisent. Mais enfin, voilà la réponse de Sri Aurobindo. Je ne vous la donne pas en anglais, je l'ai traduite en français très littéralement. Je vais vous lire, tâchez de réfléchir, et si vous avez une question spéciale à poser sur ce que je vous ai lu, j'y répondrai. Écoutez, le monde supramental doit être formé ou créé en nous par la volonté divine comme résultat d'une expansion et d'un progrès de soi constant. C'est-à-dire que pour espérer recevoir, utiliser et former en soi un être supramental et comme conséquence un monde supramental, il faut une expansion de la conscience d'abord et un progrès personnel constant, pas avoir des élans, une petite aspiration, un petit effort et puis retomber dans une somnolence. Il faut que ce soit l'idée de l'être constante, la volonté de l'être constante, l'effort de l'être constant, la préoccupation de l'être constant. S'il vous arrive 5 minutes par jour, de vous souvenir qu'il y a quelque chose dans l'univers qui est comme la force supramentale et qu'après tout, ce serait bien si ça se manifestait en moi. Et puis que tout le reste du temps, vous pensez à autre chose et que vous vous occupez d'autre chose, il n'y a pas beaucoup de chances que ça puisse venir travailler sérieusement au-dedans de vous. Et il le met d'une façon tout à fait claire et précise. Il ne vous dit pas « c'est vous qui le ferez ». Il dit « c'est la volonté divine ». Alors ne venez pas dire « oh, moi je ne peux pas ». On ne vous demande pas de le faire. Mais il faut qu'il y ait dans l'être une aspiration et une adhésion suffisante pour que l'expansion de l'être, l'expansion de la conscience, parce qu'à dire vrai, tout le monde est petit, 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 si petit, que ça n'y a pas d'assez de place pour y mettre du supramental. C'est tellement petit que c'est déjà tout plein avec tous les petits mouvements humains ordinaires. Il faut élargir beaucoup pour qu'il y ait de la place pour des mouvements du supramental. Et puis, il faut aussi une aspiration de progrès, ne pas être satisfait de ce que l'on est, comme l'on est, de ce que l'on fait, de ce que l'on sait ou croit savoir, mais une aspiration constante vers quelque chose de plus, quelque chose de mieux, vers une lumière plus grande, une conscience plus bas, une vérité plus vraie et une bonté plus universelle. Et en plus de ça, une bonne volonté qui ne se dément jamais. Ça ne peut pas se faire en quelques jours. D'ailleurs, je crois qu'à ce point de vue-là, j'avais pris mes précautions. Et que quand j'ai annoncé qu'il avait été donné à la terre de recevoir la force supramentale pour la manifester, cela ne voulait pas dire que la manifestation serait évidente instantanément et que chacun se trouverait tout d'un coup transporté sur un sommet de lumière et de possibilités et de réalisation sans un effort. Je ne l'ai pas. J'ai dit tout de suite que ça ne serait pas comme ça. J'ai même dit que je pensais que ça prendrait assez longtemps. Mais enfin, on s'est plaint que sa venue n'avait pas rendu les choses plus faciles, que même dans quelques cas, c'était devenu plus difficile. J'en suis désolée, mais je n'y peux rien. Parce que ce n'est pas la faute de la force supramentale, c'est la faute de la façon dont il a été reçu. Je connais des cas où vraiment l'aspiration était sincère et la collaboration complète, et où beaucoup de choses qui avaient paru très difficiles auparavant sont devenues tout de suite infiniment plus faciles. Mais enfin, il y a une très grande différence toujours entre une sorte de curiosité mentale qui joue avec les idées et les mots, et puis une aspiration vraie de l'être qui fait que vraiment, réellement, c'est ça qui compte, essentiellement, et pas autre chose. Cette aspiration, cette volonté intérieure qui fait que rien n'a de la valeur, excepté ça, cette réalisation. Que rien ne compte, excepté ça, qu'on n'a pas d'autre raison d'être et de vivre que ça. Et c'est ça pourtant qu'il faut, si on veut que le supramental puisse se montrer à l'œil nu. Et je ne parle pas, notez, je ne parle pas d'une transformation physique visible, parce que ça, tout le monde sait que c'est pas que Vous ne vous attendez pas du jour au lendemain devenir lumineux, plastique, à perdre votre poids, à pouvoir vous déplacer librement, vous montrer à une dizaine d'endroits en même temps. Et enfin, dans tout ça, je crois que vous êtes assez raisonnable pour ne pas vous attendre à ce que ça se produise tout de suite. Ça prendra un certain temps. Mais enfin, simplement, le fonctionnement de la conscience. Simplement, une certaine maîtrise de soi, un contrôle sur son corps, une connaissance directe des choses, une capacité d'identification et une vision claire au lieu de cette vision nuageuse, imprécise, qui ne voit que juste des apparences qui sont tellement trompeuses, tellement irréelles, tellement fossilisées. Une perception plus directe, une perception intérieure. Ça doit pouvoir venir et venir vite si on s'est préparé. Simplement avoir cette sensation que l'air que l'on respire est plus vivant, que la force que l'on a est plus durable, et qu'au lieu de tâtonner toujours comme un aveugle pour savoir ce qu'il faut faire, avoir l'intimation intérieure, claire, précise, c'est ça. Pas ça, ça. Ça, ce sont les choses que l'on peut acquérir immédiatement. Si on s'est préparé. Il y a quelque chose à demander sur le sujet ? Quelqu'un a quelque chose à demander sur le sujet? Personne? Bon. Alors nous classons. Aujourd'hui même, j'ai reçu d'autres questions qui n'ont rien à faire avec le sujet qui nous occupe maintenant, qui sont des questions vieilles comme le monde, auxquelles j'ai répondu déjà des centaines de fois. Mais enfin, il se trouve que ça n'a pas dû entrer parce qu'on me les demande encore. Quelle est ou doit être la fonction exacte des pensées? Il me semble que, pas plus tard que la semaine dernière, je vous ai dit ça. Mais enfin, peut-être que je ne l'ai pas dit clairement. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Je n'ai pas le texte de la semaine dernière, mais ce que je ne vous ai pas dit, peut-être que je n'ai pas dit pensée, peut-être que j'ai dit mental, mais enfin c'est la même chose, ou à peu près. Est-ce que je n'ai pas dit quelle était la vraie fonction du mental quand il se met à sa place et qu'il Est-ce que ce n'est pas la semaine dernière que je vous ai parlé de son pouvoir de formation et d'organisation? Alors c'est pas entré. Pas compris, non? Enfin, je ne sais pas. Ça me paraît oiseux de redemander ça parce que je vous l'ai déjà dit je ne sais combien de fois et que... Mais alors, il vient une autre question qui est d'un ordre plus précis. Ça aussi, je crois que je l'avais dit, mais enfin, il paraît que c'était pas assez clair. Pourquoi les mauvaises pensées viennent-elles? Je ne vous ai pas dit pourquoi les mauvaises pensées viennent. Pour autant de raisons qu'il y a de mauvaises pensées. Chacune vient pour sa raison spéciale. Ça peut être par affinité, ça peut être par taquinerie, ça peut être parce qu'on les appelle, ça peut être parce qu'on se met dans une condition où on est attaqué. Ça peut être tout ça à la fois. Et beaucoup d'autres choses encore. Les mauvaises pensées viennent parce qu'il y a une correspondance quelque part au-dedans de vous. Autrement, on pourrait voir quelque chose passer comme ça, mais elle ne viendrait pas au-dedans de vous. Je suppose que la question veut dire pourquoi est-ce que tout d'un coup vous pensez quelque chose de mauvais? Parce que les étapes sont très différentes. Je vous ai déjà expliqué que dans l'atmosphère mentale, c'est pire qu'une place publique au moment où il y a une foule. C'est une innombrable quantité d'idées, de pensées de toute nature et de toute forme qui s'entrecroisent dans un enchevêtrement tellement compliqué qu'il est impossible de rien discerner de précis. Votre tête est là-dedans, votre mental est encore plus là-dedans, il baigne là-dedans comme quand on se baigne dans la mer. Et puis tout ça vient, va, passe, tourne, cogne, entre, sort, etc., etc. Si vous étiez conscient de l'atmosphère mentale dans laquelle vous vivez, il est évident que ce serait un peu affolant. Je pense que les limites cérébrales personnelles sont tout à fait nécessaires comme un filtre pendant très longtemps de l'existence pour être capable de sortir de tout ça et vivre pleinement dans l'atmosphère mentale telle qu'elle est, en la voyant telle qu'elle est. C'est la même chose pour l'atmosphère vitale d'ailleurs, c'est peut-être encore plus laid. Mais enfin, vivre là-dedans et le voir tel qu'elle est, il faut être solide. Il faut avoir une boussole intérieure très solide. Mais en tout cas, que vous le voyez ou que vous ne le voyez pas, que vous le sentiez, que vous ne le sentiez pas, le fait est là. C'est comme ça. Alors, on ne peut même pas demander d'où elles viennent. Elles sont partout. Pourquoi elles viennent? Où iraient-elles? Vous êtes dedans. Alors, ce qui gouverne ce filtre de la conscience, qui fait qu'il y en a dont vous êtes conscient et il y en a dont vous n'êtes pas conscient, ça, C'est votre attitude intérieure, vos affinités intérieures, vos habitudes intérieures. Je parle intérieur mental, je ne parle pas rien de psychique. Je parle intérieur mental. Votre éducation, votre développement cérébral, etc., etc. Ça, c'est l'espèce de filtre que vous avez, qui a été formé par votre ego et à travers lequel certaines pensées passent et certaines ne passent pas automatiquement. Ce qui fait que la nature des pensées que vous recevez peut être pour vous une indication assez sérieuse du genre de votre caractère, qui peut être très subconscient pour vous parce qu'on n'a pas l'habitude de se connaître proprement, mais enfin, la tendance de votre générale de votre caractère. C'est-à-dire, pour le prendre d'une façon simpliste, mettez un homme optimiste, eh bien c'est généralement des idées optimistes qui lui viendront. Mettez un homme pessimiste, ce seront généralement des idées pessimistes qui lui viendront. Je parle d'une façon générale. Une personne révoltée, d'une nature révoltée, ce sont des idées révoltées qui lui viendront. Et une personne très mouton, ce sont des idées de moutons qui le temps que les moutons aient des idées, etc. Ça, c'est la condition normale générale. Maintenant, s'il se trouve que vous avez décidé de faire des progrès et que si vous entrez sur le chemin du yoga, alors, il y a un nouveau facteur qui entre. Dès que vous voulez progresser, vous vous rencontrez avec la résistance de tout ce qui ne veut pas progresser, en vous et autour de vous. Et cette résistance, naturellement, se traduit par toutes les pensées correspondantes. Admettez que vous vouliez faire un progrès au point de vue de, mettez, l'attachement pour la nourriture, par exemple. Eh bien, presque constamment viendront vers vous des idées particulièrement intéressées à la nourriture. Des idées sur la nourriture, sur ce qu'il faut prendre, ce qu'il ne faut pas prendre, comment il faut le prendre, comment il ne faut pas le prendre, etc., etc. Et ces idées vont, n'est-ce pas, vous venir, ça vous apparaîtra comme tout à fait naturel. Et plus au-dedans de vous, vous vous dites, oh, comme je voudrais être libéré de ça, comme quelle entrave à mon progrès, toute cette préoccupation, plus ça viendra gentiment, jusqu'à ce que le progrès soit vraiment fait intérieurement et que vous soyez monté à un degré de conscience où vous pouvez regarder à toutes ces choses d'en haut et puis les mettre à leur place, qui n'est pas une très grosse place dans l'univers. Et ainsi de suite pour toute chose. Par conséquent, vos occupations et vos affinités vont vous mettre en rapport d'une façon presque contradictoire, non seulement avec les idées qui sont en affinité et en rapport avec votre manière d'être, mais avec le contraire. Et si vous ne prenez pas soin dès le commencement d'avoir une attitude de discernement, vous serez changé en un champ de bataille mental. Si vous savez monter un degré supérieur, comme je disais, simplement dans une région mentale spéculative qui n'est plus tout à fait le mental physique ordinaire, vous pouvez voir tout ce jeu et toute cette lutte et tout ce conflit et toutes ces contradictions comme une curiosité qui ne vous touche pas et qui ne vous affecte pas. Si vous montez à un degré encore plus supérieur et que vous voyez le but vers lequel vous voulez aller, alors vous viendra petit à petit le discernement entre les idées qui vous sont favorables et que vous garderez, qui seront favorables à votre progrès, et les idées qui sont en contradiction avec ce progrès, qui y nuisent et qui l'altèrent, et que d'en haut, vous aurez le pouvoir d'écarter tranquillement sans en être autrement affecté. Mais si vous restez là, dans ce niveau-là, au milieu de cette confusion et de ce conflit, alors, ou bien vous risquez d'avoir mal à la tête. Et la meilleure chose à faire, c'est de vous occuper pratiquement à quelque chose qui vous obligera à une concentration spéciale, ou l'étude, ou le travail, ou une occupation physique, corporelle, qui demande l'attention, quoi que ce soit, qui fait que vous soyez obligé de vous concentrer sur ce que vous faites et de ne plus être comme ça la proie de ces divagations. Mais si vous avez le malheur de rester là et puis de regarder ça, alors certainement, vous aurez mal à la tête. Parce que c'est une question qui doit être ou décidée par une descente dans la vie pratique et une concentration dans un effort pratique, ou bien en montant au-dessus et en regardant du dessus tout ce chaos de façon à pouvoir y mettre de l'ordre et le régler. Mais il ne faut jamais rester à ce plan-là, c'est un plan qui ne vaut rien, ni pour la santé physique, ni pour la santé morale. Voilà. C'est tout. Maintenant, si quelqu'un a quelque chose à me dire ou à me demander, je suis prête à l'entendre.